Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et quel public, au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité littéraire avec Elisabeth Philippe de l'Obs, Nelly Capriélian des Inrecuptibles, Olivia de Lamberterie, Duel et Arnaud Vivian, notre Christophe national. De regards et de transfuges. On parle ce soir d'un roman inédit de Céline Guerre, du journal de nage de Chantal Thomas, d'un bref récit d'Annie Ernaux, d'Indépendance de Javier Cercas et du Crépuscule du monde de Werner Herzog. Oui, c'est un livre, hein, c'est pas un film. Dans le courrier de la semaine. En général, on nous reproche notre sévérité. Cette fois, on nous en sait gré, et c'est à propos de l'affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker. Cet imposteur, nous écrit Claire Charpentier, dont la bibliothécaire de mon village m'a mis le livre entre les mains. J'ai eu la surprise d'entendre sur les ondes que ce faiseur était considéré comme un écrivain, un mensonge de plus dans notre société qui n'en est pas avare. Quel soulagement de vous entendre au masque dire la vérité sur ce point. Merci, ajoute Pierre Jumelli, c'est en effet le livre le plus nul que j'ai lu et je ne comprends pas son succès, c'est incroyable. Pour Jean-Luc d'Outrelan, le dernier roman de Joël Dicker, mais malheureusement c'est pas le dernier, c'est le nouveau, est une purge, un blanc de poulet industriel, insipide et filandreux. À côté, les critiques sont rien, hein, à côté des auditeurs.
Oui, c'est vrai, on était soft.
Un blanc de poulet où l'auteur se démasque, il n'est pas l'écrivain qu'il prétend être, mais un boutiquier qui gère son fonds de commerce, 560 pages d'intrigues médiocres où toutes les filles sont forcément merveilleuses, le policier forcément bourru, et le narrateur Marcus, double de Joël Dicker, forcément génial. Voilà, sinon, et j'en ai reçu d'autres dans le même sens, hein, sinon Eric nous écrit « Mon masque, je vis depuis Sarkozy aux Amériques », comme le disait ma grand-mère, et je continue de vous écouter chaque dimanche avec délectation. Je suis actuellement à Hawaï et lis « Mes amis » d'Emmanuel Bove, selon les conseils de Jérôme Garcin. Quel bonheur ce livre où l'on s'aperçoit qu'à l'après-première guerre mondiale, on trouvait que c'était déjà mieux avant. Merci pour tous vos conseils, je vous dois beaucoup dans ma liste de lecture. Cher Masque, nous écrit par ailleurs Catherine Gouin de Montreuil. Je sais, vous avez jeté l'éponge à propos des Zogmas, mais celui que je viens de trouver dans le dernier livre de Nicolas Mathieu, Connemara, eh bien, je vous l'envoie, cette meuf qu'il avait connue au collège, avec qui il avait fait l'amour et des dettes. C'est pas mal, joli Zogma. C'est un seul, hein. J'arrête, hein. J'en lirai pas d'autres. Hein. Merci au passage, nous dit Catherine Gouin, pour tous vos conseils, vos coups de foudre ou de gueule. Enfin, Violette s'inquiète beaucoup. Voilà, le générique de votre émission est l'occasion pour ma famille de pratiquer une fois par semaine un peu d'exercice sous la forme d'une ronde dansante au rythme de la fileuse de Mendelssohn. Or, depuis quelques semaines, nous ne parvenons plus à suivre ce rythme. Le générique cavale devant nous, nous manquons les temps, trébuchons et nous heurtons les uns les autres, nous dit Violette. Je soupçonne un changement de tempo. Est-ce la musique qui a accéléré ou nous qui sommes devenus plus lents? Merci pour votre émission qui nous maintient en forme. Chère Juliette, j'ai le regret de vous dire, à vous et à votre famille dansante, que la fileuse de Mendelssohn, interprétée, vous le savez, par Daniel Barenboim, n'a jamais varié, à moins que Xavier Pestugia accélère, mais je ne crois pas, depuis que mon prédécesseur et ami François-Régis Bastide l'avait choisi pour générique en 1978. Et que son rythme n'a été ni trafiqué, ni accéléré. Donc, ça plaiderait plutôt, chère Violette, merveilleuse Violette, pour plus de lenteur dans vos exercices de danse. Voilà.
On devrait faire la ronde aussi, nous.
Si tu veux, tu peux. Toi, tu peux le faire avec Arnaud Vivian. Il ne demande que ça. J'ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. Toute l'oreille à gauche était collée par terre avec du sang, la bouche aussi. Entre les deux, il y avait un bruit immense. Ce sont les toutes premières lignes de guerre de Louis-Ferdinand Céline, publié chez Gallimard dans une édition de Pascal Fouché avec un avant-propos de François Gibault. Et il s'agit d'un roman inédit qui fait partie, vous savez, de la masse de manuscrits retrouvés et exhumés l'été dernier, un roman dont l'action se situe dans les Flandres, durant la Grande Guerre, que Céline aurait écrit 2 ans après l'apparition du Voyage au bout de la nuit. Ça se débat. On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand depuis le moment où il est gravement blessé et il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu'à son départ pour Londres. L'occasion aussi, enfin en tout cas pour moi, de découvrir un Céline très dans la guerre, mais aussi très, 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 et peut-être plus chaud lapin que jamais. Si je comptais les scènes X de guerre, on serait assez édifié, parce que je dis ça sérieusement, hein, parce que quand on voit les romans, les autres romans de Céline, il n'y a pas une telle présence, non, Elisabeth ?
Sauf dans Mort à crédit.
Sauf dans Mort à crédit.
Et qui est paru caviardé, donc...
Et je signalerai après juste une exposition qui a lieu au même moment. Oui, Elisabeth, non, je me trompe pas sur la chaleur
brûlante. C'est très
brûlante.
C'est pornographique, hein, tout simplement.
C'est limite porno, hein.
C'est pas limite, c'est carrément pornographique, notamment avec ce personnage formidable, étonnant d'infirmière, mademoiselle, la môme Lespinasse, qui procure beaucoup de plaisir aux blessés, donc parmi les corps agonisants.
Cette et pas seulement du plaisir, parce qu'elle est... Elle
pas seulement,
parce qu'elle est des sondes.
Elle, oui.
Ouais, quand même. Là,
elle
c'est quand
joue
même
de la sonde
sadique.
Plus souvent qu'à son tour, en effet.
Mais c'est pas incompatible, hein.
On peut. Ah non, mais
on peut jouer de la sonde.
Enfin, apparemment, Ferdinand n'apprécie que modérément la sonde. En revanche, quand elle lui tâte le Roméo, puisque c'est une des expressions fleuries employées par Céline, là, il passe sur les dents verdâtres de cette horrible, dévouée et généreuse mademoiselle Lespinasse. Non, c'est ce roman, donc. Enfin, roman, c'est difficile de dire roman parce que bon, on pourra revenir peut-être sur le statut de ce texte. Déjà, il manque le début, donc on a l'impression d'un début in medias res. On est sur le front, mais en fait, il manque des feuillets à ce texte.
Alors, petite parenthèse, pour certains, ça serait une partie non retenue. Je dis bien certains spécialistes, du Voyage au bout de la nuit.
Oui, j'avoue qu'il y a pas mal d'éléments qui plaident dans ce sens, dans la mesure où, quand on reprend Voyage au bout de la nuit, il y a un passage dans lequel Ferdinand se réveille effectivement sur le front, seul survivant parmi d'autres soldats, et ressent une douleur dans son bras. Et donc ça fait écho au passage que tu as lu. Donc on pourrait penser que ça se rattache au Voyage. Après, le style se rapproche plus de Mort à crédit, du fait notamment de cette présence importante de sexe et de pornographie. Donc bon, là, il y a débat sur la datation de ce texte. Moi, je ne suis pas spécialiste de Céline. Mon intuition me dit que c'est peut-être un morceau perdu du Voyage, mais là, c'est vraiment une question d'intuition. Toujours est-il que ce texte, il est très important, il a ses défauts, mais on pourra y revenir, parce que finalement, on a l'impression que Céline a beaucoup écrit sur la guerre, notamment à cause du Voyage au bout de la nuit, mais finalement, dans Voyage, les pages sur la guerre sont assez limitées, et ensuite, dans le reste de l'œuvre de Céline, il est assez peu fait mention de la guerre, qui est pourtant la grande commotion dans la vie de Céline et ce qui va déclencher son écriture. Donc, évidemment, ce texte, il est intéressant déjà à ce titre-là. On est évidemment dans la guerre, on est dans la boue, on est dans la pluie, et très vite, on est loin des combats, loin du front, dans cet hôpital, au milieu des blessés, au milieu des morts, des cadavres, avec cette infirmière mademoiselle Lespinasse, et puis d'autres personnages comme le souteneur qui s'appelle d'abord Bébert, puis qui va s'appeler Cascade. Et donc, ce récit de cette convalescence est ponctué de scènes totalement hallucinées. C'est un roman très expressionniste, très outré. On voit que c'est un texte de premier jet, parce que c'est un peu toujours sur la même note. Donc je pense que, enfin, peut-être que si Céline l'avait repris ou vraiment retravaillé, il y aurait plus de contrepoints. Là, ils sont peut-être donnés par quelques échappées dans la campagne qui ressemblent à des tableaux de Corot, de Pissarro. C'est aussi assez peu habituel. Enfin, on a peu l'habitude de lire ça chez Céline. Donc c'est un texte mais très...
La question très basique, c'est est-ce que ça vous a plu?
Ah, c'est une bonne question.
Ah oui, parce que c'est pas une émission de spécialistes, et je voudrais savoir ce qu'on éprouve aussi en lisant aujourd'hui un inédit de Céline comme guerre.
Oui, c'est toujours quand même stupéfiant d'être confronté à la langue de Céline, qui déborde d'inventivité, qui est truculente, qui est outrancière. Oui. Quand il parle de la mocherie des hommes, ou quand il parle de cette prostituée qui est bandatoire de naissance, enfin, il y a plein d'expressions comme ça qui sont complètement folles. On se croirait dans des tableaux d'Autodix. Oui, c'est quand même évidemment que c'est toujours un choc de lire Céline.
Nelly.
Moi, je l'ai ouvert et je me suis dit, c'était une bouffée d'oxygène. Et Dieu sait que c'est les
bouffées d'oxygène.
Oui, c'était une bouffée d'oxygène parce que là, j'étais avec un écrivain. Voilà, c'est un écrivain. Ah bah si, oui, moi, mais... moi, je respire Quand il y a une langue, voilà, quand il y a une langue, quand il y a des phrases.
Mais tu l'as lu juste après le Joël Dicker, donc t'étais
voilà, mais oui, c'est vrai en plus.
Évidemment, tu... faut pas faire ce genre de comparaison.
Là, j'étais à la limite du choc, j'ai failli être moi-même hospitalisée. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de livres à lire, avec des très bons livres, mais là, tout d'un coup, on voit... Alors, moi, j'ai pas lu Céline, j'ai l'impression que tu as relu Céline récemment, ou tu, Elisabeth, tu vois, tu as... Ou t'as vraiment Céline en tête. Moi, c'est vrai que je l'ai pas lu depuis très très longtemps. Et j'avais un peu oublié cette espèce de choc de ce que c'est que de lire Céline. Et là, on l'ouvre dès la première page. C'est, voilà, on est dans l'écriture. Il invente une langue. Il invente sa langue. Il y a cette phrase. Alors, j'arrêtais pas de souligner des phrases. Et pour moi, la littérature, c'est quand même des phrases, quoi. S'il y a pas des phrases un peu fortes. Et là, il dit,
c'est le principe, oui.
À présent, je suis, non, pas juste des phrases, mais des phrases fortes. À présent, je suis entraîné. 20 ans, on apprend. J'ai l'âme plus dure comme un biceps, je crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Passons. Toute la guerre est là. On n'est pas vraiment sur les champs de bataille, à part au début où il est blessé. On est beaucoup à l'hôpital, puis avec une prostituée. Mais c'est de la guerre. Tout le temps, il ne se remet pas de la guerre. Il y a des morceaux sur le sang, sur la chair, sur ce que c'est que le physique, le corps, sur ce que c'est que la tête, sur ce que c'est que le vocabulaire qui est complètement chamboulé. Alors moi, il y a un moment où, c'est vrai que à chaque livre de Céline, je me souviens qu'il y a un moment où j'en ai un peu assez, c'est-à-dire que cette oralité, je l'adore, mais... Mais bon, tu sais, souvent, on oppose Proust à Céline dans les grands, comme ça, du XXe siècle. Et moi, on dit, est-ce que vous êtes plutôt proustien ou Céline? Moi, je suis plutôt proustienne. Mais c'est vrai que là, c'est quand même oui, si vous allez trouver ça bizarre, c'est un bonheur. Moi, juste quand même pour ajouter une chose, parce qu'il y a quand même tout ce qui est autour du livre. Enfin, pas juste les histoires de Thibaudat, d'Ayant Droit, de tout ça.
Et puis, je veux pas qu'on fasse toute l'émission sur...
Non, moi, il y a quand même un truc, parce que c'est vrai que Céline, dans cette façon de dénoncer l'horreur de la guerre, il est très très fort. Enfin, c'est quand même un écrivain de la guerre et de l'horreur de la guerre. Maintenant, faut pas oublier que il me semble que c'est 3 ans après ce texte qu'il écrit Bagatelle pour un massacre, qui est quand même un appel à la haine et au meurtre. Et ça, alors, c'est quand même un statut en bilance.
Je signale que les autres inédits vont paraître de manière successive. À l'automne, il y aura Londres.
Londres,
deuxième roman. Et un troisième en 2023. Arnaud.
Mais. Quand même, cette histoire, on vit quelque chose d'extraordinaire, quand même. C'est un événement littéraire inouï que nous vivons. Il y a eu l'histoire, donc l'histoire est déjà tellement romanesque. Donc
elle est magnifique.
On en avait parlé au masque.
Thibaudat, etc. Je n'y reviens pas. Mais, OK, il y a toutes ces inédits, mais là, on les découvre. Inédits, ça veut rien dire. Est-ce que c'est des fonds de tiroir, des choses que pourquoi Céline n'a pas voulu les publier à l'époque, puisqu'ils ont disparu, rappelons-le, en 44, donc 10 ans après avoir été écrit. Donc pendant 10 ans, il aurait pu les publier. Pourquoi ne les a-t-il pas publiés? C'est ça qui est la vraie question. Alors du coup, on pouvait se dire fonds de tiroir. Et moi, je lis ce texte, mais je suis à la renverse, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est, qui suis vraiment un adorateur de Céline, c'est du très très grand Céline par ailleurs. Et il y a même une modernité que finalement je n'ai plus, on retrouve pas ensuite dans ce texte-là. Il y a une modernité de Céline qu'on ne retrouve pas ensuite. D'ailleurs, il y a très peu de les 3 petits points de suspension qui sont sa marque de fabrique, sont quasiment inopérants ici. Hein, c'est point, tout simplement. Il y a des phrases et surtout ce rapport à la guerre. Il faut bien comprendre qu'en 1934. Évidemment, il y a eu des grands textes sur la Première Guerre mondiale, mais c'est Dorgelès, c'est Les Croix de Bois, c'est Barbus, c'est des choses très académiques, et soudainement, là, il fait un livre sur la guerre, mais qui montre, comment dire, l'espèce de bêtise et d'ignominie auquel tout le monde est rendu, finalement, tout le monde, quel que soit.
Et de boucherie qu'était cette Première Guerre mondiale.
Oui,
de boucherie absolue.
Oui, c'est la boucherie.
Boucherie absolue, et personne n'en avait parlé comme ça, avec cette manière d'ironiser, mais bellement, pas d'une manière médiocre, dans une espèce d'immense beauté. Il y a des phrases quand même. Je ne savais pas quoi penser, moi toujours. J'étais pas dans l'état de réfléchir trop fort. Mais vous imaginez, mais n'importe quel type qui fait du stand-up, mais rêverait d'écrire une phrase comme ça. Constance Debré, elle a jamais écrit une phrase comme ça.
Oh, si, si,
non,
si, si, si.
Non,
elle a écrit des phrases comme ça.
Toutes les descriptions, et effectivement le côté salace, mais aussi totalement misérable, l'univers de délation qui va conduire justement ce pauvre Cascade à être exécuté, et tout ça est ramassé. Et c'est pour ça, alors, l'histoire du premier G, c'est bizarre. On a des reproductions des pages manuscrites dans le volume, et on voit combien, au contraire, il a corrigé. Donc c'est pas du tout un premier G. Et je trouve qu'il n'a jamais été, encore une fois, aussi moderne, et qu'il ne le sera plus. C'est très étrange, le statut de ces textes. Évidemment, maintenant, là, on attend Londres avec, mais là, celui-là. En
octobre.
Plus, 150 pages, quoi, je veux dire, c'est très court.
Olivia.
Moi, je suis pas une adoratrice de Céline, et je suis, comme Nelly, plus du côté de Proust. Et c'est vrai que c'est sidérant. Là où tu as raison, Nelly, c'est que ça ratiboise tous les autres livres qu'on lit après. C'est vraiment un livre qu'il faut lire presque, il faut le lire tout haut. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'on vient jamais avec les livres. Ouais. Et la chose qu'on a fait tous les quatre, c'est qu'on a apporté le livre tellement qu'on a envie de lire des extraits. Après, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre sur la douleur. D'ailleurs, il le dit plein de fois, il dit qu'il est tellement épuisé et fatigué qu'il a même pas l'élan pour se tuer. Avec des personnages extraordinaires. Tu parlais de l'infirmière, mais après, la prostituée Angèle. De la dernière partie,
oui.
Il y a quand même des scènes. Alors après, c'est pas pour les mauviettes, hein. C'est quand même assez salé. Moi, il y a des expressions d'argot que je ne connais pas.
Il y a un glossaire à la fin.
Il y a un glossaire où parfois on comprend pas la phrase.
Enfin, mais, vendatoire, on comprend.
Non, mais vendatoire, oui, merci, je suis pas non plus une oie blanche. Mais il y en a beaucoup plus que vendatoire. Là, on est vraiment dans la mesure. Ah non, c'est répugnant, c'est sidérant, c'est. Et je trouve que plus on avance dans le livre, plus l'écriture est fluide.
Oui, parce que c'est comme si on voyait l'élaboration de l'écriture.
Oui, absolument. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place.
Et l'épisode se tient complètement. Moi, je veux bien croire qu'il manque des feuillets au début, mais on n'a pas du tout ce sentiment.
Oui, mais non, on n'a pas ce sentiment.
Au contraire, on a un sentiment d'une clôture. Et si le prochain épisode, c'est Londres, alors que ça se termine justement sur le départ à Londres, tout se tient.
Mais ce qui est très beau, d'ailleurs, on a reçu aussi un livre avec les photos qu'il y aura dans l'exposition de Gallimard. Il y a des photos de lui, on le reconnaît pas du tout, d'ailleurs.
Là, il y en a une en uniforme et tout jeune. Alors, l'exposition, elle a commencé il y a deux jours, le 6 mai. C'est donc Céline, les manuscrits retrouvés, et c'est à la galerie Gallimard. Et effectivement, avec beaucoup de documents, il y a des facsimilés, il y a des photos. Là encore, c'est un trésor. Si j'avais su un jour, j'inscrirais un roman de Céline.
Oui, c'est vrai. Oui.
Inédit au programme du Masque et la Plume.
Il y aura d'autres surprises.
Et c'est pas le dernier.
Et c'est pas le dernier.
Il y a un mètre cube.
C'est donc qui ont été trouvés. Guerre. Et c'est signé Louis-Ferdinand Céline et c'est chez Gallimard. Triple actualité pour Annie Ernaux. Elle publie un très bref récit. Quand je dis bref, c'est 40 pages. Hein. Le jeune homme, chez Gallimard, qui réédite L'Atelier Noir dans une version augmentée d'ailleurs, tandis qu'un gros volume des Cahiers de Lerne lui est consacré avec des extraits inédits de son journal intime, des lettres que lui ont adressées Simone de Beauvoir, Benoît de Groult, Pierre Desproges. J'y découvre un Pierre Desproges.
Très touchante.
Fou d'admiration. Éperdu même d'admiration pour Annie Ernaux. Des textes. Alors, il y a plein de textes. Dominique Blanc, Nicolas Mathieu, Jeanne Chéral, Delphine de Vigan. Des photos. Bref, là encore, un petit trésor. Et dans Le jeune homme écrit à la fin des années 90, Annie Ernaux raconte une relation qu'elle a vécue avec un garçon de 30 ans, son cadet. Elle en avait alors 54. Il était étudiant à Rouen, il l'appelait la meuf d'ailleurs, et lui vouait une ferveur dont, dit-elle, elle n'avait jamais été l'objet de la part d'un amant. « Avec mon mari autrefois, écrit-elle, je me sentais une fille du peuple. Avec lui, j'étais une bourge. » Bref, Annie Ernaux se décline ce mois-ci sur tous les modes.
Et en film aussi.
Mais toujours avec la même intégrité. Ah oui. Et il y aura un film, mais qui n'est pas sorti, qui sera présent.
Génial. Moi, je l'ai vu.
Qui sera présenté au Festival de Cannes, que je n'ai pas vu, celui-là.
Moi non plus, pas encore.
C'est admirable. C'est un film.
Mais c'est un film d'elle ou
Super 8, non, de vidéo.
Ça s'appelle Les années Super 8. Et en fait, pendant les années de leur mariage, au début de leur mariage, son mari avait acheté une caméra Super 8. Et entre 72 et 81, ils filment les anniversaires, les Noëls avec leurs deux petits garçons.
À Ifto.
Et leur voyage en Albanie, au Maroc avec les enfants. Et elle a écrit le texte de ce film. Et c'est splendide parce qu'on voit vraiment une femme écartelée entre son foyer, ses devoirs d'épouse et de mère, et la nécessité impérieuse d'écrire. C'est sublime.
Eh bien, c'est à, je crois que c'est à la quinzaine
de réalisateurs,
ouais. réalisateurs ouais. que c'est présenté. Alors, le jeune homme, Olivia.
Le jeune homme, c'est sublime aussi. C'est, alors, c'est sûrement pas pour les gens qui n'ont jamais lu Annie Ernaux. Hein. C'est comme une sorte de perle précieuse qu'on trouve et qu'on a envie de rajouter dans, dans la malle au trésor qu'on a d'Annie Ernaux. Il y a une petite phrase qu'elle a mise en exergue au début du livre. « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été seulement vécues. » Et c'est une phrase que, à mon avis, on peut mettre en résonance avec beaucoup de morceaux du journal dans les cahiers de Lerne, où elle explique qu'en fait, pour elle, la réalité de l'existence est beaucoup, beaucoup plus dense lorsqu'elle écrit que lorsqu'elle vit. Et on trouve cette démarche dans ce jeune homme, qui est un texte court, mais qui est incroyable, parce que c'est encore comme lorsqu'elle écrit sur le viol, sur l'avortement, sur les règles, sur l'origine sociale, c'est quand même un énorme tabou à l'époque. Elle raconte, il y a des phrases incroyables.
Avec cette scène absolument choc, très brève, où elle fait l'amour avec ce jeune homme, donc dans le studio de ce jeune homme à Rouen, en face de l'hôpital, où elle a été conduite longtemps que, avant, quand elle avait fait un avortement clandestin.
Elle vit cet amour qui est un défi à la société. Elle raconte que les regards parfois sur elle, elle dit c'est comme si, en nous voyant ensemble, ils voyaient l'inceste. Faut l'écrire cette phrase. Et effectivement, il y a une sensation, d'abord qu'elle a déjà vécu tout ça avec son mari, mais de manière inversée, puisque son mari était d'origine bourgeoise, elle d'origine populaire, et avec le garçon, elle retrouve cette transmission comme ça de fait bourgeois, ce qui se fait, ce qui se dit ou pas. Et puis, effectivement, les fenêtres donnent sur l'Hôtel Dieu, où on l'a sauvée quand même d'une hémorragie, avec un médecin qui lui avait dit, c'était dans l'événement, je ne suis pas un plombier. Hein. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que ce texte est si important, c'est parce qu'il, finalement, il va être à l'origine de l'écriture de l'événement qu'elle écrit juste après.
C'est exactement ça.
Arnaud.
C'est passionnant.
Elle commence par cette phrase qui est énorme, quand elle dit « Souvent, j'ai fait l'amour pour m'obliger à écrire. »
Et chaque là, phrase, on peut la prendre.
Vous avez la connexion. Et donc, elle est en train d'essayer. Elle raconte qu'elle n'arrive pas à écrire, justement, l'événement que Audrey Diwan a mis en scène, d'une manière, à mon avis, excellente. Donc, elle est en train d'écrire, elle n'y arrive pas. Et ce garçon qui lui écrivait depuis un an, elle décide de le voir. Et là, évidemment, elle vit à l'envers ce qu'elle a toujours raconté, c'est d'être transfuge de classe. Et soudainement, c'est elle, la bourgeoise. C'est elle qui a l'argent, c'est elle qui a le pouvoir symbolique, culturel, etc. Lui, il a 20 ans, il n'a rien, et elle se retrouve dans son petit studio qui donne effectivement, en plus, sur les fenêtres de l'hôpital, où elle est... Voilà, la boucle est complète, mais en même temps, et le texte qui est très court, se termine au moment où elle commence à écrire, effectivement, l'événement. Donc, il y a une utilisation, faut bien être clair, hein, c'est-à-dire que ce pauvre garçon, il est instrumentalisé pour et qu'elle puisse écrire son livre et vivre une situation contraire à celle qu'elle a toujours racontée de transfuge de classe. Après, là, je pense qu'on est en train de vivre aussi un moment assez incroyable quand on se replonge dans le passé, où quand même, notamment la critique de droite, soyons très clairs, l'a traité de hérémiste, de la littérature, de misérable, misérabilisme, etc.
Elle a quand même,
sans compter, évidemment, l'histoire écharmillée qui en a rajouté encore une tonne d'opprobre sur elle. Et donc là, c'est la victoire vraiment totale de Annie Ernaux avec le cahier de Lerne qui est formidable. Et où là où on voit le gisement incroyable qui est le journal.
Une richesse incroyable.
Qui paraîtra évidemment d'une manière intégrale un jour. Mais là, quand on lit les extraits, c'est déjà phénoménal. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la dernière partie du cahier de Lerne qui concerne la politique. C'est aussi ma passion. Et Dieu sait si c'est un écrivain politique, Annie Ernaux, et dans plein de sens du terme.
Elle est très engagée dans la dernière campagne présidentielle. Dans Les Inrocks, il y a un entretien que tu as fait.
Oui, d'Edouard Louis.
Nelly, avec Edouard Louis, qui est passionnant, parce que tout d'un coup, c'est presque en miroir.
C'est presque en miroir. C'est un jeune homme, en tout cas, qui se revendique de l'œuvre d'Annie Ernaux pour lui-même s'être remis à écrire et comment il écrit. Et cet entretien d'Edouard Louis devient une espèce de manifeste pour une littérature contemporaine. Et qu'est-ce qu'une littérature politique ? C'est qu'est-ce que ça veut dire d'écrire aujourd'hui. Et à travers l'œuvre d'Ernaud, où il dit qu'elle a complètement révolutionné la littérature, c'est-à-dire elle a cassé les règles du beau. Il parle de l'explicite, de l'implicite, c'est-à-dire qu'il a grandi, enfin il a grandi où il est arrivé à un moment donné à l'âge d'écrire où on lui disait mais la littérature il ne faut pas dire, il faut montrer, il faut être dans l'implicite, pas dans l'explicite. Et il dit ben au fond ce sont les en effet ceux qui ont le pouvoir culturel qui nous disent cela.
Et dans les deux cas,
si on ne montre pas le monde explicitement, on ne peut pas le changer. Et c'est vrai que Ernaud s'est pris des coups, parce que là, ce que tu disais, Ernaud, c'est ô combien vrai, mais même avec Passion simple, c'était une bonne femme qui racontait des trucs de bonne femme, c'était graveleux et misogyne et dégoûtant, enfin, ce qu'elle se recevait dans la
figure. Plus un procès fait à son style, c'est-à-dire un style volontairement simple.
Oui, voilà, comme si elle ne savait
même
pas
si,
écrire.
Attention, hein, on découvre que, elle est, invitée en 1988 chez Gallimard en présence de François Mitterrand.
Oui,
dans son journal, elle raconte ça, il y a Octavio Paz, il y a Philippe Solers, et d'ailleurs la manière dont elle la raconte est juste formidable.
Elle est pleine de haine en fait, elle a aucune envie d'être là-bas, et même fantasme venir avec un revolver.
Là encore, le transfuge de classe, ça continue. Quoi.
Et j'ai aimé le rapport, vous avez déjà tout dit du texte, mais j'ajouterais le rapport au temps. Ouais. C'est vrai que dans ce magnifique cahier de Lerne, on souligne le rapport au temps proustien aussi, et c'est vrai que personne s'y attend vraiment. Mais là, cette espèce de circularité du temps, cette façon quand elle dit, il y a des phrases où elle dit finalement ce jeune homme, il a vu sa vie devant soi, moi j'avais ma vie plutôt derrière, on est un peu en miroir ou en symétrie un peu opposée dans ce rapport au temps. Il a tout à vivre, il a tout à découvrir. Et puis, le rapport au temps, dans le passé, évidemment, ça va l'amener à se rappeler de l'avortement. Bon. Et je ne sais pas s'il est un instrument, ce jeune homme, je ne sais pas trop.
Révélateur. Hein.
C'est un révélateur. Je pense que tout d'un coup, elle Elisabeth. Se rend compte dans ce rapport au temps.
J'employais le terme instrument parce que c'est le terme qu'elle emploie dans les années où elle, en fait, elle raconte déjà cet épisode dans les années. C'est en quelques lignes, mais elle parle d'un jeune homme avec qui elle a une liaison et qui regarde téléfoot. Enfin, on retrouve vraiment les éléments qui sont distillés là dans ce texte qui est effectivement un petit précipité, un condensé de son œuvre. Enfin, c'est formidable comment en 40 pages, il y a tous ces thèmes, tout ce qui fait la force de son écriture. Et dans les années, quand elle parle de cette relation, de cette liaison avec ce jeune homme, ça la conduit ensuite à une réflexion sur l'écriture. Et elle dit que ce qu'elle recherche, c'est la sensation palimpseste. Et c'est exactement ce que tu disais, Nelly, c'est ces strates de temps qui se superposent. Pause où, en étant avec ce jeune homme, elle retrouve sa propre jeunesse et elle revit son propre passé. Et oui, tu parlais de Proust, c'est son roman le plus proustien, ce jeune homme, parce que c'est comment faire ressurgir le passé, mais à la différence de Proust, elle va pas passer par la métaphore, par les longues phrases, au contraire, c'est par l'expérience, par quelque chose de très direct, de très brut, ça passe par le corps, ça passe par la chair, et c'est absolument vertigineux, en fait, ce qu'elle arrive à faire, à superposer ses différents mois, ses différents états, ses différentes époques, et tout ça, elle le fait surgir.
Et puis
oui,
encore une fois, avec des questions fondamentales aussi sur effectivement les transfuges de classe, sur la relation qu'on a avec quelqu'un qui n'est pas de votre milieu. Enfin, et puis alors, je disais, tu parlais du passé, mais je trouve que les photos des origines dans le cahier de Lerne, les photos des origines du milieu de la vie d'Annie Ernaud et de ses parents sont absolument bouleversantes. En noir et blanc, sont très très belles. Oui. Donc, encore un livre qu'on vous conseille.
Bah oui, encore un très bon livre. Hein, magnifique.
Bonne soirée pour l'instant. Ouais. Alors, Annie Ernaud, Le jeune homme, petit livre chez Gallimard, L'atelier noir, réédité, mais dans une version augmentée, et ce luxueux, magnifique, indispensable, cahier de Lerne. Le film, on ne sait pas quand il sortira, Olivia?
Bien, non, je sais qu'il est réalisé par David Ernaud et Annie Ernaud, et qu'il est présenté à Cannes, mais je n'ai pas la date de sortie.
Le crépuscule du monde s'est traduit de l'allemand par Josie Méli aux éditions Séguier, et c'est un roman, un récit, totalement halluciné, mais si je vous dis qu'il est signé Werner Herzog, vous ne serez pas étonné, le cinéaste de Aguirre, La colère de Dieu, qui est donc très familier de la folie des hommes, il fait le portrait d'Hiro Onoda, ce soldat japonais qui, sur une île des Philippines, vous savez, a continué de se battre contre un ennemi imaginaire pendant 30 ans, ignorant jusqu'à la défaite de son pays, du Japon, en 45. Un personnage qui vit toujours, puisqu'il a aujourd'hui 91 ans, et à qui, vous le savez aussi, fidèle du masque, Arthur Harari a consacré l'an passé un très beau film, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, qui avait obtenu le prix Louis de Luc et le César du meilleur scénario. Alors, ce qui est très étrange, c'est que le cinéaste Herzog, lui, a préféré en faire un livre, et il raconte brièvement, il faut dire, avoir rencontré Onoda en 1997, et dit qu'ils ont été tout de suite sur la même longueur d'onde, ce qui m'a pas étonné. J'avais travaillé dans la jungle, dans des conditions difficiles, et pouvais donc lui poser des questions qui ne venaient à l'esprit de personne d'autre, dit Herzog. Et à quoi Onoda répond très bien, notre meilleur ami est le brouillard. Arnaud.
Mais je connaissais évidemment, comme tout le monde, cette histoire d'Onoda. Tout le monde la connaît, ce type qui ne sait pas que la guerre est terminée, qui va s'en apercevoir beaucoup plus tard, hein, c'est 74, 75, je crois, hein, on lui fait comprendre que là, c'est fini.
30 ans après.
Il faut se rendre. Mais en fait, avec ce livre de Werner Herzog, que j'ai trouvé particulièrement bien écrit, particulièrement bien mené, très intéressant, précisément parce que il m'a expliqué concrètement ce qui s'était passé. C'est dans les détails concrets, c'est ça qui est fascinant dans ce livre, c'est pourquoi ils ont pu, pendant effectivement tant de temps, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, j'ai découvert ça au passage, oui.
Oui, moi aussi, enfin je m'attendais à ce qu'ils soient tout seuls.
Oui, ils soient tout seuls, mais non, un peu comme un Robinson perdu dans la jungle, mais en fait non, ils étaient trois, et puis quatre à un moment, puis voilà. Non. Donc on découvre tout ça très concrètement, comment ils se débrouillent, comment, et en fait, j'ai compris quelque chose, par exemple, c'est que comment ils pouvaient penser que la guerre continuait, mais tout simplement parce qu'il y a eu d'autres guerres après. Il y a eu la guerre d'Indochine, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. À un moment, ils voient un journal, ils trouvent un journal et ils pensent que ils sont tellement paranoïaques qu'ils pensent qu'on leur fait des faux journaux pour leur faire croire que la guerre est terminée, et ils voient la fuite de Saïgon, mais ils ne comprennent pas évidemment parce qu'ils sont toujours dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est quand même une idée et ça je n'avais pas compris ça, de cette histoire. Il y a une phrase géniale, moi je trouve, je vous la cite. Parfois, dit Onoda, il me semble que ces armes, et il parle des fusils, ont une nature intrinsèque sur laquelle l'être humain n'a pas de prise. Ont-elles une vie propre? Et là, il dit, est-ce que la guerre n'existe pas pour elle-même? Est-ce que la guerre ne rêve pas d'elle-même? C'est-à-dire que, soudainement, voilà, on est là au cœur de, non pas de la folie des hommes, hein, mais de la folie de la guerre. J'ai trouvé ce texte éblouissant.
Elisabeth.
Mais non, c'est amusant que tu parles du côté très concret. Effectivement, on sait comment ils se nourrissent, ils volaient du riz, comment ils faisaient de l'huile avec des noix de coco. Ils ont mis du temps d'ailleurs à comprendre comment faire de l'huile avec des noix de coco.
Oui, il y a un côté Koh-Lanta,
un peu Koh-Lanta.
Mais sans totem d'immunité, quoi.
Et bizarrement, j'ai trouvé ce livre hyper abstrait. Je trouve que littérairement, il fait pas grand chose de cette situation qui est dantesque, qui est effectivement une espèce de cauchemar réel. Mais c'est long, enfin, à part pour nous faire comprendre, prendre la mesure du temps, il met une capitale, une majuscule au mot temps. Mais, enfin, ça suffit pas, on aimerait que ça passe par d'autres choses, qu'un vrai écrivain, un écrivain le ferait sentir par d'autres procédés. Et moi, vraiment, les 30 ans dans la jungle, je les ai sentis passer, c'était long, genre, je n'en pouvais plus. Non,
ça fait 250 pages.
Oui, bah oui, mais bah, ça paraît, ressenti 500. Non, et.
Olivia.
Moi, j'étais un peu comme toi. Je trouve que ce livre est beau quand il ressemble à un film, en fait. Parce qu'il y a deux temporalités.
Mais aucun de vous n'a vu le film d'Harari, aucun?
Non.
On n'a pas le temps de lire
des livres. Voilà.
Tu lui donnes trop
pour le masque.
Heureusement que vous n'êtes pas à ma place.
Il y a deux temporalités dans le livre. Il y a la guerre, et puis après, il y a les scènes qui se passent, donc presque 30 ans après. Et il y a une scène qui frise le génie. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'étais légèrement endormie. Hein. Moi, j'étais un peu comme toi. Et tout d'un coup, ils ne sont plus que deux. Ils sont dans la jungle. Et là, ils sont presque fondus dans la jungle. Parfois, il y a des soldats qui passent, qui marchent sur eux. Ils voient même plus qu'il y a des hommes. Et ils trouvent un poste de radio. Ils écoutent le poste de radio et il y a la retransmission
d'une
course hippique. Mais Jérôme, c'est pour toi cette scène.
Je sais, je l'ai vu.
Une course hippique. Et ils sont là à entendre les noms extrêmement poétiques des chevaux. Il y a fleurs de cerisier, il y a ombre blanche. Et tout d'un coup, il y a un cheval qui s'échappe des starting blocks, qui part dans le parking. Mais c'est une scène absolument aussi folle que dans La vérité sur Marie de Toussaint.
Jean-Philippe Toussaint,
le cheval qui rentre
sur le tarmac.
cette scène est dingue. Et là, on se dit, mais il aurait dû faire un film, hein. Non? Enfin, bon, moi,
oui, ou raconter davantage sa rencontre avec Onoda. On a envie d'en savoir plus.
Ouais.
D'ailleurs, il n'est pas gentil parce qu'il y a une interview dans un journal que je ne citerai pas de Werner Herzog. Et quand on lui demande, mais qu'avez-vous pensé du film d'Arthur Harari sur Onoda? Il dit que c'est très mauvais. Parce que quand même, de la part d'un cinéaste qui n'a pas voulu en faire un film, un peu culotté.
Oui, non, je pense qu'il aurait, Nelly. Il aurait dû en faire un film. En fait, moi, je suis assez. Ouais,
imagine Aguirre, la colère de Dieu, version,
oui, version
philippine d'Onoda.
Oui, oui, un sujet pour lui.
Non, mais bien sûr, parce que c'est vrai que c'est l'histoire qui est plus intéressante que le style de d'Herzog, le style littéraire d'Herzog, qui est quand même un peu plat. On aurait dû donner cette histoire à Céline, quoi. C'est dommage que. non, je voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire.
Eh bien, c'était le crépuscule du monde et le crépuscule aussi de la critique de Nelly Capriélian. Et c'est signé Werner Herzog.
Oh.
Les éditions Séguier, Indépendance, traduit chez Actes Sud par Alexander Grujicic, j'espère que je le dis bien, et Karine Louesdon. C'est le deuxième volet de la trilogie Terra Alta que le grand écrivain espagnol Javier Cercas consacre à la crise qui a frappé la Catalogne en 2017, lorsque, après un référendum, elle a voulu faire sécession et que Madrid a réprimé ceux qui avaient proclamé la République catalane. Dans ce roman, alors qui est un polar d'anticipation, puisqu'il se passe en 2025, l'inspecteur de police.
C'est un peu minable comme anticipation.
Ben, quoi?
C'est 3 ans, 2 ans, quatre ans.
C'est quand même de l'anticipation. Melchor Marin est confronté à une tentative d'extorsion de fonds basée sur l'existence d'une sextape visant la nouvelle maire populiste et xénophobe de Barcelone. Et au cours de son enquête, bah, il va plonger dans le monde évidemment corrompu de la haute bourgeoisie catalane, qui se croit absolument au-dessus de toutes les lois. Il faut dire que dans le livre, comme dans le précédent, les élites politiques et économiques de la ville en prennent pour leur grade. Et là, Cercas s'en prend à nouveau au mouvement souverainiste, qui, selon lui, en fait, d'indépendance, entend surtout préserver celle de sa caste. Elisabeth.
Alors moi, je n'ai pas lu le premier volet de cette trilogie. Je connais surtout Javier Cercas pour ses textes d'autofiction,
oui.
Notamment Le Monarque des Ombres, qui est magnifique, qui était hanté par les fantômes de la guerre d'Espagne. Donc là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et bon, il y a effectivement, il y a cette sextape, il y a énormément de scènes de viol, de scènes très très violentes. Le policier, donc le héros, est hanté par la mort de sa mère, qui était une prostituée, qui a été assassinée des années auparavant. Donc tout ça, il y a un petit côté Elroy en Catalogne.
Ouais.
Mais le problème, c'est que c'est truffé de dialogues. Ça ne repose quasiment que sur des dialogues.
Ce qui explique l'épaisseur du livre, d'ailleurs.
Ouais. Et au bout d'un moment, c'est assez pénible à lire. Je dis pas que l'intrigue est mauvaise, mais il essaye d'insuffler un peu une dimension un peu métalittéraire, parce que à certains moments il est question d'un roman écrit par un certain Javier Cercas qui parle de Melchor Marín, mais en fait il en fait rien. Et j'avoue que j'ai pas énormément adhéré. J'étais assez déçue en fait, parce que pour avoir lu d'autres textes de Javier Cercas là dans la veine policière, puis je pense que ça joue beaucoup avec la politique espagnole. Donc moi je suis pas une très grande spécialiste de ça, donc ça m'a un peu échappé. Tout ce que je connais de la mairie de Barcelone, c'est Manuel Valls. Ouais. Et là, il n'apparaît pas. Livre, donc j'étais perdue. J'avais pas de repère.
Il n'y a ni Valls ni Griveaux, t'as remarqué.
Voilà,
hein.
Donc oui, c'est étonnant. C'est donc, moi, j'étais perdue. Oui. Non, je trouve pas que ce soit un très très bon roman policier.
Qu'en pense Nelly?
Ah non, mais je suis d'accord avec Elisabeth, c'est même très mauvais, un point étrange. Parce qu'on
ça, a, le problème de commencer une émission avec Céline.
Il a quand même été, c'est quand même un très bon écrivain, Javier Cercas. Et là, j'ai l'impression qu'il se compromet. J'ai l'impression qu'il a envie, avec cette flopée de dialogues, que ce soit adapté en série télé ou au cinéma. Je trouve qu'il y a quand même là quelque chose, on a l'impression d'un écrivain qui a décidé, soit gagner de l'argent, soit de.
Mais moi, je parle,
faire un grand succès.
Là, vous êtes injuste, c'est que je pense qu'il est vraiment passionné, soucieux de la crise catalane. C'est
oui, mais ça, on peut écrire des articles. On n'est pas obligé à chaque fois de faire des tas de dialogues. Mais en plus, tous les clichés, l'inspecteur qui vient, qui a souffert, qui a traversé des tragédies.
Qui adore Les Misérables et qui se prend pour
capter sa fille Cosette. Oui, sa fille s'appelle Cosette et qui doit rentrer pour garder sa fille et qui doit. Mais j'ai l'impression qu'on a vu ça dans les séries en plus. Non,
ah oui, tu vois.
Olivia.
Mais moi, je pense que le problème, c'est ça, c'est que c'est un livre qui est empoisonné par les séries, parce que ça part effectivement un peu à la Elroy. C'est d'une violence. La première scène est d'une violence inouïe. On n'est pas au bout de nos peines. Il a effectivement passé cet inspecteur beaucoup d'années de sa vie à essayer de trouver le meurtrier de sa mère comme le Dahlia Noir. Il a perdu sa femme et donc c'est un père Jean Valjean avec sa fille qui s'appelle Cosette. Et puis à partir de là, je trouve que c'est comme si c'était, oui, empoisonné par toutes ces séries qu'on a vues avec aussi Succession. Bon, moi, j'ai jamais adhéré à Succession.
Ah, c'est génial, Succession.
Ah non, au bout d'un moment, ils sont tous ignobles. Et ben là, c'est pareil, ils sont tous ignobles.
Pour les séries, on a le samedi soir chez
Xavier. C'est que des gens très riches. Alors, une malheureuse, son mari a fait assassiner ses parents. Elle est toute seule, elle a élevé ses quatre filles. Enfin, moi, j'ai trouvé que vraiment, c'est comme s'il écrivait déjà le scénario de sa propre série.
Oui,
en fait.
C'est exactement ça, voilà.
Alors, est-ce qu'Arnaud va sauver le livre ?
Ah, mais je vous trouve trop gentil, hein, je trouve ça, mais archi nul ! Mais archi nul ! C'est-à-dire, littérairement, mais aucun intérêt, je veux dire, le flic, là, qui fils de prostituée assassinée, qui a été en prison, qui a lu Les Misérables en prison, déjà, mais... Et qui appelle sa fille Cosette. Non, mais n'importe quoi, enfin, je veux dire, c'est ridicule, de bout en bout, quoi, avec, à plus, la mise en abîme, donc... il se met dans le livre lui-même et donc on dirait du Bolano de supermarché quoi.
Exactement.
C'est la sauce bolognaise quoi, tu vois, c'est mais vraiment c'est et alors politiquement n'en parlons pas hein, parce que c'est ça le vrai problème si vous voulez.
Je suis pas loin de penser comme toi.
Hein? Parce que faut voir comment il les traite, hein. Non pas les souverainistes, parce que c'est déjà dire souverainiste, c'est un abus de langage. Ce sont des indépendantistes, c'est pas exactement la même chose. Et il les traite de national-populistes réactionnaires et insolidaires. C'est ce qu'il a déclaré dans un journal. La sortie en Espagne, c'est très très mal passé.
Ah, bah, il s'est fait traiter de fasciste.
Bien sûr. Mais parce que, franchement, ce qu'il raconte, politiquement, je veux dire, il a un problème.
Il a craqué.
Et il a un petit problème politique, sérieux à régler. Il n'est pas très loin de Manuel Valls, hein, qui, rappelons-le, défilait avec l'extrême droite
espagnole,
en Catalogne.
Bien, c'était Indépendance de Javier Cercas. Et on termine Le Temps Presse avec Journal de Nage au Seuil, journal qu'a tenu Chantal Thomas au sortir du confinement. J'ai tout à coup ressenti l'arrivée de l'été. Et la nage, écrit-elle, comme une libération bouleversante. Elle avait déjà raconté dans Souvenirs de la marée basse sa passion de l'eau, passion héritée de sa mère, Jackie, qui se baignait à Arcachon et avait même un jour crawlé dans le grand canal du château de Versailles. Et ici, la nouvelle académicienne française, qui est installée pendant ce journal à Nice, nage dans la Méditerranée matin et soir. Un corps qui nage, ajoute-t-elle, n'a pas d'âge ni de poids. Et elle plonge, évidemment, dans la littérature avec Kafka, Patrick Deville, Paul Morand aussi pour ses bains de mer, et l'anthologie dont on avait parlé au masque de Charles Spronson, héros et nageur. Je précise qu'elle sera reçue en juin à l'Académie française, au fauteuil de Jean d'Ormesson, autre grand nageur. Olivia.
Oh ben moi j'adore, c'est un livre absolument merveilleux. Moi je voudrais que Chantal Thomas m'adopte et aller nager avec elle. Tellement, c'est un livre sur, elle a cette expression que j'ai adorée, sur la joie sans raison. Et on parle souvent de la mélancolie sans objet. Là, c'est sur la joie sans raison. D'abord, il y a quelques pages sur le confinement. C'est la première fois qu'on lit des choses intéressantes sur ce que c'est.
Surtout sur la sortie du confinement.
Oui, mais il y a aussi des mots très beaux où elle dit qu'elle a l'impression qu'elle n'a plus de corps. D'ailleurs, elle rêve qu'elle a des bras en ouate, en coton, et que ces bras qui n'ont plus personne pour embrasser... deviennent perdre leur vigueur et leurs sensations. Et après, à la sortie du confinement, effectivement, elle a cette volonté de vivre chaque seconde de cet été qu'elle a tellement attendu. Personne ne décrit comme elle ce que c'est que de nager. Le fragment de seconde où vous rentrez dans l'eau froide et tout d'un coup, vous êtes en harmonie totale avec le monde. Elle raconte ça. Et elle raconte d'ailleurs le bonheur de nager pour nager sans aucune autre intention que de nager. Elle raconte... Alors, il y a parfois des petit moment juste anecdotique avec la dame qui rentre avec vous dans l'eau et qui dit « ici c'est chaud parce qu'il y a un courant chaud dans les pieds », mais on a tous vécu ça. Puis après, il y a des choses merveilleuses, le chanteur nageur tout d'un coup. Elle raconte la joie pure, voilà, c'est un livre qui rend heureux. Et puis après, elle revient sur certains passages de sa vie et elle raconte comment justement, à chaque moment douloureux de sa vie, elle a choisi, avec une sorte de volontarisme, d'être heureuse.
Je vous rappelle que dans Souvenir de la marée basse, elle racontait que sa mère était très dépressive,
bien
et
sûr.
Que c'est la nage qui l'a sauvée de la grande, grande mélancolie.
Ah ben, ce livre, il sauve de
Arnaud.
Tout, et la nage sauve de tout.
Arnaud.
Oui. Oui, il faut que je parle de Chantal Thomas.
Oui, mais rapidement.
Oui, rapidement. Ben oui, alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça commence pendant le confinement. C'est un journal. Hein,
oui, ça commence par les animaux dans les villes qui ont surgi à l'occasion du premier confinement.
Oui, il y a quelques pages au début sur le confinement, et après, donc, c'est la liberté, donc la possibilité d'aller nager. C'est ça aussi. Il y a vraiment le journal de Kafka est en arrière-plan constant. J'ai appris d'ailleurs au passage cette anecdote que j'ai trouvée magnifique, c'est que Max Brod et Kafka avaient envisagé de créer l'équivalent du guide du routard, hein, c'est-à-dire un guide de voyage pour des étudiants peu fortunés, y compris avec des adresses de bordel d'ailleurs au passage. Ils fréquentaient beaucoup les bordels, Kafka et Brod. Le seul petit bémol, c'est à un moment, elle s'en prend à un Flaubert qui parle d'un bain où il se sent entouré de 1000 tétons liquides.
Elle n'aime pas beaucoup ce Flaubert-là.
Oui, visiblement, elle parle là soudainement de camaraderie de bordel, ce qui la gêne pour Flaubert ne la dérange pas visiblement pour Kafka. Je pense que
non, mais c'est tétons, l'usage du mot. Elle trouve qu'il n'est pas assez gracieux.
1000 tétons liquides, si vous voulez, quand joli. Même. Si c'est ça, c'est de la camaraderie de bordel. Le bordel n'est plus très loin de Normal Sup, quand même. Hein.
Elisabeth.
Non, c'est un livre d'une volupté absolue. Je trouve que c'est magnifique. On a envie effectivement de nager avec elle. Et le fait d'être, que ce soit un journal de nage, en fait, elle est dans une liberté totale et donc elle procède par libre association. Donc elle parle aussi bien, tu l'as dit, de Kafka que de Casanova, une autre de ses obsessions, que de Barthes, dont elle a suivi le séminaire. Et contrairement à lui, elle a choisi.
De la scène à Paris où j'ai appris que le fils de Madame Hidalgo faisait de la natation.
Ah bah oui, bien sûr, Arthur, oui. Bah, il faut suivre
ah
un
bon
peu, hein, Jérôme. Ouais.
Ah bon? Pas les fils d'Emmanuel Valls?
Non, c'est pas, non. Enfin, on sait pas. Et non, et moi, ça m'a fait penser, parce qu'elle parle beaucoup du Japon aussi. Il y a cette scène magnifique. Elle parle de cette estampe avec un moine bouddhiste qui, pour calmer la tempête, sort son pinceau et trace le mantra du lotus sur les vagues et immédiatement les vagues s'apaisent. Et on sent aussi cette inspiration japonaise. Moi, ça m'a fait penser, il y a un mouvement artistique au Japon qui s'appelle ukiyo-e. C'est traduit par les images du monde flottant. Et c'est ça, en fait, le livre de Chantal Thomas. C'est des images de son monde flottant à elle. Et c'est très poétique, c'est très beau. Et à un moment, elle écrit que nager rapproche des oiseaux. Ben, quand on la lire aussi rapproche des oiseaux parce que ça élève.
Vous avez remarqué quand même que chaque fois que j'ai inscrit un livre de Chantal Thomas au Masque et la Plume, c'est chaque fois le même enthousiasme. Nelly.
Alors, du coup, moi, je vais apporter un petit bémol.
Parce que là,
pas nager.
Parce que là, tu ne parleras pas.
Non, alors, j'aime pas nager, je n'aime pas l'eau. Moi, toutes les descriptions. Alors, j'aimais, comme tu disais. Non, mais c'est très bien de dire c'est de la joie pure.
Ton
ça,
idole,
c'est très bien, on en a besoin.
Ton idole Constance Debray.
Elle nage, oui. Mais je ne fais pas tout ce que les idoles font. Voilà. J'ai une personnalité à moi, Jérôme.
Ah bon?
Oui, absolument.
Je veux dire personnelle.
Personnelle, une personnalité personnelle. Personnel. Et bon, tout ça m'a pas trop. Puis j'avais lu Souvenir de la marée basse, donc je me disais pourquoi revenir encore avec la nage. Est-ce qu'elle est à court d'idées? Moi, j'aime bien ces évadés, ces digressions, ces associations d'idées, ces mondes flottants. Mais c'est vrai que ce qui me manque, c'est la Chantal Thomas. Et justement, ces mondes flottants-là, ces idées, ces anecdotes qu'elle raconte sur Kafka et les autres. J'ai envie de retrouver Chantal Thomas, de supporter sa liberté. J'ai envie de retrouver la Chantal Thomas. Elle a fait un essai absolument magnifique qui s'intitule « Souffrir ».
Ah oui.
Voilà, j'ai envie de retrouver une Chantal Thomas un peu costaud.
Sur Versailles, hein, qu'elle a écrit.
Oui, alors en plus, évidemment, oui, sur Casanova, sur... Oui,
oui. Oui, puis
mais c'est très costaud, c'est pas parce qu'elle nage, je trouve.
Non,
que c'est
je pense. Non, il y a par exemple un passage où elle convoque Anne Dufour-Mental pour rien. Je trouve que c'est pas du tout développé.
Elle l'a pas
vraiment développé.
Elle est morte en se noyant, enfin.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas. Un écrivain, il fait une sélection. On peut pas parler de tout ce qui a trait à l'eau quand on écrit un livre sur la nage. Ça devient.
Bon, c'était Journal de nage au seuil de Chantal Thomas. Le temps est venu des conseils. Et on va commencer avec Nelly.
Ben, écoute, moi, mon conseil, c'est un autre quand même événement, qui est l'Enédie de Pérec.
Mais on va en parler au masque.
On va en parler, donc j'en parle pas beaucoup. Mais donc il y a un autre inédit, sachez-le, de Georges Perec, qui s'appelle Lieu, qui est, alors encore une fois, on se pose la question de, voilà, est-ce que c'est un livre de Georges Perec ou un livre de personnes qui ont décidé, donc de publier, de son éditeur, de publier les enveloppes, je sais pas, il y a combien, 184 enveloppes, 277 enveloppes. Enfin bref, il écrivait, il allait dans les lieux qui ont compté pour lui, il écrivait, il décrivait ce qu'il voyait, et ensuite, il mettait ça dans une enveloppe, et ensuite il reconstituait ce lieu-là de mémoire en convoquant d'autres souvenirs. Là. Il mettait ça dans une autre enveloppe. Voilà, là toutes les enveloppes ont été ouvertes et c'est un livre de 600 pages.
Et on ouvrira vraiment les enveloppes le 12 juin. Elisabeth.
C'est magnifique. Moi, mon choix, c'est une anthologie de poèmes de Etel Annan. Etel Annan, c'est cette femme peintre, poète libanaise, née d'une mère grecque de Smyrne et d'un père turc et qui a été élevée dans 4 langues, le grec, l'arabe, le turc et le français, et qui a enseigné en anglais et qui écrivait en anglais. Et on retrouve, en fait, si je dis ça, c'est qu'on retrouve le monde entier dans ses poèmes. On retrouve les paysages à la fois de Méditerranée, de Syrie, de Liban, mais aussi de la Californie où elle a longuement vécu. Elle parle même du cosmos, des nuages, des anges, et c'est absolument magnifique. C'est une façon de vraiment de revenir à l'essentiel, de revenir aux éléments, d'essayer de se retrouver soit à travers les éléments, la nature. Il y a une veine écologiste assez marquée aussi. Et cette anthologie de poèmes, les derniers, elle les a écrits très tard. Donc elle est morte, Etel Annan, en novembre dernier. Elle avait 96 ans. Et les derniers textes de cette anthologie sont justement ceux qu'elle a écrits déjà à un certain âge, où elle essaye de revenir sur son passé. Et c'est accompagné d'un livre d'entretien avec Laure Adler, qui est très très beau aussi. La beauté de la lumière.
Mon conseil, c'est un bref roman, deuxième roman d'Emmanuel Chaussade, qui s'appelle Dire au Mercure de France, et qui se confie à sa psychanalyste Elsa Kayat, qui a été tuée en 2015 lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, et qui raconte donc à cette psychanalyste son enfance fracassée, tabassée au sens propre par un père violent, et qui s'en est sortie en travaillant pour un grand couturier chez qui il allait connaître une ascension fulgurante. Ce qu'il dit de sa manière de créer dans la mode, la simplicité la plus sophistiquée, celle qui ne se voit pas, s'applique à ce livre « Dire au Mercure de France » Emmanuel Chaussade. Le conseil de Olivia.
Un roman de Mathieu Berman qui s'appelle « Un début dans la vie » chez POL. C'est l'histoire d'un enfant que le narrateur, qui est aussi l'auteur, va rencontrer. Un enfant dont il connaît la mère et l'oncle, qui est son ami, et dont il a toujours entendu parler comme d'un être insupportable, odieux, antipathique. Et puis, par un concours de circonstances, il va se retrouver à passer quelques jours avec ce petit garçon. Et la première chose qui va l'étonner, c'est que cet enfant a 4 ans et demi, que c'est vraiment un tout petit enfant, et que tout le monde autour de lui semble avoir oublié que c'est un si petit enfant qu'on condamne en le traitant vraiment comme un petit animal. Et il raconte cet enfant et il va imaginer ce qu'il pourrait devenir. Et c'est d'une beauté absolue.
L'éditeur, le nom.
Chez POL, Un début dans la vie, Mathieu Berman.
Rapidement, Arnaud.
Ben moi aussi, c'est une anthologie de poèmes dans cette petite collection du Mercure de France que j'adore, qui s'appelle Le Goût, où il y a plein de volumes. Et là vient de sortir Le Goût de la poésie française. C'est une anthologie établie par l'excellent Franck Medioni, qui est aussi un grand critique de jazz, par ailleurs. Alors évidemment, on retrouve tous les classiques de la littérature française, hein, de Louise Labbé à Mallarmé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contemporains. Et donc là, vous avez du Tarkos, du Jacques Reda, du Jacques Jouer. Et vraiment, je trouve cette anthologie absolument merveilleuse. Ça vaut 10 euros, ça se met dans la poche, vous l'ouvrez et vous tombez sur un poème absolument miraculeux de la langue française.
Tous ces conseils ajoutés à tous les livres dont nous avons parlé ce soir, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Elisabeth Philippe, Nelly Capriel-Lyon, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au théâtre de l'Alliance Française, à la Technique, il y avait, et je les remercie, Marie Le Peintre, Philippe Thibault, Alex Otinoa, à la régie Jean-Yves Masson, et à la réalisation, bien sûr, Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, c'est le jeudi 12 mai à partir de 19h au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.